La cellule de Rosa à l'heure des visites. Arthur entre, un réveil à la main. Rosa arrive et s'assied. Arthur fait entrer Mathilde et Brecht et se met au garde à vous dans un coin. Mathilde sort la machine à écrire et se prépare à taper.
Moi, Bertolt Brecht, je suis des forêts noires. Ma mère m'a porté dans les villes d'asphalte. Et longtemps, j'ai pensé que les hommes ne valaient pas tripette par rapport aux bêtes. Il a bien fallu m'en accommoder. Un jour, dans les rues de Berlin, grises des usines nouvelles, j'ai vu un homme plein de haine battre jusqu'au sang son cheval qui refusait d'aller aux abattoirs. Voilà comment j'ai décidé d'écrire l'histoire de Rosa Luxembourg qui refusait obstinément la guerre.
Venons-en au fait.
Il y a un monde ici, il est en désordre. Qui est prêt à le mettre en ordre?
Moi, qui ne veux pas de nom.
Ton destin est donc décidé. Tu vas mourir pour cette cause. Vas-tu te plaindre quand ils te tueront?
Non.
Et quand tu apprendras que ceux qui te tuent sont ceux pour qui tu es prête à mourir, auras-tu peur?
Non.
Et quand tu comprendras que tu vas mourir sans qu'un ordre ne soit trouvé, auras-tu de l'amertume?
Non.
L'entends-tu, l'épitaphe?
Oui.
Rosa la Rouge a disparu, où repose son corps, est inconnu. Elle a dit aux pauvres la vérité, les riches l'ont assassinée.
À ceux qui viendront sur ma tombe, par le souffle des arbres, je dirai, l'injustice doit être vaincue.
Et si tu n'as pas de tombe?
Qui me cherchera trouvera mon ombre.
Je veux mettre la révolution sur scène. Tu seras mon personnage.
Je ne suis pas une héroïne.
Raconte comment c'est arrivé.
À 20 ans, je voulais étudier les sciences naturelles, les mathématiques et l'astronomie.
Et finalement, tu as choisi l'économie et la politique.
Oui.
Pourquoi?
La révolution des hommes m'importe davantage que la révolution des astres.
Pourtant, tu aurais rencontré moins de traîtrises. Les planètes ne réclament pas de dommages et intérêts.
T'empêter contre l'humanité n'a pas de sens. La révolution doit en avoir un.
L'injustice n'enraye pas la mécanique céleste. Le ciel n'influence pas la mécanique sociale.
L'homme doit comprendre sa place dans l'univers.
Le temps presse, l'heure tourne. Le danger se rapproche. Vous l'entendez qui galope?
C'est une bête. On ne peut pas l'apprivoiser.
C'est l'humanité.
Elle a du champagne dans le sang. Elle hurle après les étoiles et vocifère contre la lune.
Elle veut changer son destin.
Comment?
Du point de vue des étoiles, les pauvres et les riches ont la même taille.
Donne-moi la lettre. Donne-moi la lettre.
Il ne bouge pas.
Rosa dans sa cellule le soir, occupée à botaniser. Elle sort du vase les fleurs, coupe leur tête avec les doigts, les met à sécher entre des livres et elle leur parle.
Prends garde à toi, ma rose. C'est Rosa Luxembourg qui te le dit. L'amour est sans pourquoi, l'amour est calculateur. Tu es bouleversée, pleine d'ardeur, mais prends garde à toi, ma rose. Il sait déjà te cueillir avec son air innocent, son corps un peu gras qui oscille, sa manière débile de s'ébrouer. On dirait un jeune éléphant. Rien d'un gardien, tout d'un enfant. Il cherche une mère et qu'est-ce qu'il trouve? Une grosse qui boite, pleine de malédictions. Prends garde à toi, ma rose, c'est Rosa Luxembourg qui te le dit. Le printemps est là, tout monte en sève malgré la guerre, c'est l'éclosion malgré la prison. Les bourgeons gonflent, les oiseaux s'appellent, les fleurs diffusent leur pollen. Et dans l'unité de la lumière, il n'y a plus d'idéal, seulement du désir. Mais prends garde à toi, ma rose, c'est Rosa Luxembourg qui te le dit. Il n'y a pas de confiance ici, il y a seulement la prison et la guerre, la folie ici, seulement le manque et les voix. Va-t'en, reste, oui, non, non, oui, tu es mien, je ne serai jamais tienne, je suis tienne, tu ne seras jamais mien. Nous nous aimerons, nous nous trahirons, tu me casseras le cœur et moi le tien. Mais je sentirai encore, une dernière fois, un souffle sur mon cou, une dernière fois ton souffle de traître. J'ai envie de toi. Je ne peux pas le nier, j'ai envie de toi pendant que tu ris, pendant que tu parles, pendant que tu marches. J'ai envie de toi pendant les crimes de guerre, les bombardements, la corruption, les dévorations de cadavres, pendant l'ignoble de l'homme et la barbarie. J'ai envie de toi. J'ai fait un rêve magnifique hier, rêve très vivant. Le contenu était doux, vague et flottant. Quelqu'un de cher se trouvait tout près de moi. Je touchais ses lèvres avec mon doigt et je demandais « À qui appartient cette bouche ?» La personne me répondait « À moi !» Alors je riais. J'étais secouée de rire et je répondais « Ah non, cette bouche est à moi !»
Après-midi ensoleillé. Jardin botanique de Breslau. La serre à rosier avec une table. Rosa et Arthur entrent. Elle, avec sac et ombrelle à la main, lui les bras encombrés de pots de fleurs, d'un arrosoir et d'outils.
Tu aimes toujours ton Constantin ?
Tu n'as donc rien de mieux à faire.
Ton petit gnou-gnou ?
Constantin Tsetkin est le fils de Clara Tsetkin, je le connais depuis qu'il est enfant.
Ma chère petite gnagna.
Sa caserne a été bombardée. J'attends des nouvelles par sa mère, mais ses lettres n'arrivent pas.
Tu écris trop de lettres. Tu donnes trop de travail aux censeurs. Ils se plaignent.
Ce ne sont que des courriers de femmes. Inoffensifs.
Tu crois peut-être que ton amie Clara Zetkin, première féministe d'Europe, pilier de Spartacus, le parti révolutionnaire que tu diriges, leur semble inoffensive ? Tu les prends pour des nigauds ?
Il faut préparer la révolution.
Et que ferons-nous quand viendra ta révolution ?
Nous défendrons la beauté, la grâce, l'esprit, la bonne plaisanterie.
Nous défendrons des ruines et j'irai à ton enterrement.
Je croyais que tu ne faisais pas de politique.
Seulement à mes heures perdues.
Et tu en as perdu beaucoup ?
Suffisamment pour te dire que la révolution est mal engagée.
Les infamies et les monstruosités dépassent chaque jour toute mesure. Nous vivons dans un immense asile d'aliénés. Nous pataugeons dans une boue puante morale. Et pourtant, grâce à la révolution, cela peut se transformer. Du jour au lendemain, en son contraire. En quelque chose de prodigieusement grand, comme par un coup de baguette magique, et tout ce qui se passe à présent sera balayé, et tous ceux qui offensent aujourd'hui le nom même de l'homme participeront fougueusement à la nouvelle jeunesse.
Tu crois au miracle ? Au coup de baguette magique ? C'est dans les baraques foraines que la naine devient une princesse.
Tu ferais un excellent bonimenteur.
Ton exaltation est touchante. Tes discours donnent la fièvre. Mais Spartacus est un enfant. Les vieux l'écraseront.
Ses membres lui sont entièrement dévoués.
Des agitateurs sans organisation.
Clara Tsetkin.
Une féministe prête à tout castrer.
Karl Liebknecht.
Un député socialiste sans tactique.
Léo Jogiches.
Un lituanien jaloux et borné.
Franz Mehring.
Le biographe de Karl Marx.
Paul Lévy.
Et un avocat suicidaire.
Ce sont eux, mes véritables amis.
La belle équipe.
Tous sont prêts à donner leur vie.
Bouffer les pissenlits par la racine, je ne suis pas pressé.
Une fleur commune de la famille des Astéracées.
Je préfère les roses. Regarde celle-ci.
Le rosier est ancien, les épines sont épaisses, le cœur est bien ouvert.
Le parfum est une véritable liesse.
Je te piquerai et tu penseras à moi pour l'éternité.
Une piqûre de rose peut être mortelle.
Il était une fois un rossignol amoureux d'une rose rouge sang. Chaque matin, il accompagnait l'aube de son chant vif et plein d'ardeur, pour que se répande sur elle l'habit doux et lumineux du jour. Chaque soir, il élançait son cri vers les cieux infinis pour que coule sur elle le manteau de la nuit.
Goethe, Heine, ils ont tout piqué aux Perses.
Le temps passa. La belle restait muette. Un jour, à la fin de l'été, le rossignol vit que la rose fanait. Il se désespéra tant qu'il alla chanter tout contre elle et se déchira sur ses épines. L'orage nettoya les cœurs. Ainsi s'achevèrent les noces du rossignol et de la rose jusqu'au prochain printemps, quand la nature redonna vie aux deux amants.
Ah, le vieux mot de révolution. Le bel ordre des planètes. Les saisons qui passent et reviennent.
Il y aura toujours un nouveau printemps.
Et toujours une nouvelle guerre.
Dans ma cellule, la nuit, un soleil si éclatant. Dans le noir de la prison, un soleil si chaud, un cœur battant. Tu ne sens donc pas cette lumière ?
Ma lumière est morte depuis longtemps.
As-tu lu le roman de Gorki, La mère ?
Je ne l'ai pas
lu. Une mère. Son fils est accusé de préparer la révolution. Il meurt en prison. Et l'amour de la mère devient l'amour pour la révolution.
Dans le genre mère et fils, je préfère Phèdre et Hippolyte.
C'est aussi une tragédie. Sophocle, Racine, inceste et suicide, trahison et lapidation.
Phèdre me plaît. C'est une femme à taureau, comme sa mère.
Et Hippolyte,
Un morveux dépravé, indécis et obsessionnel, mal poli. Et ça la tient.
Tu veux dire qu'elle l'aime pour sa folie, son alcoolisme ?
C'est ça.
Phèdre aime la misère de l'humanité.
Phèdre aime les types bien ambrés.
Elle veut transgresser sa condition de mère, il lui faut un complice, elle choisit son beau-fils.
Oh, je te vois venir. Hippolyte veut la révolution, il ne le sait pas. L'amour le lui enseignera.
Il veut la ruine du tyran.
L'hypothèse peut tenir. T'en as la chose ? Je peux t'appeler mère ?
As-tu donné la lettre ?
Pas encore.
Qu'est-ce que tu attends ? Que les astres tombent ? Que le firmament soit un crâne dégarni ?
Ne t'inquiète pas. Si je vois passer la chevelure d'une comète, je ferai un vœu pour ta survie. Mais il est temps de rentrer à présent.
Jour du solstice d'été en fin de matinée. Mathilde, au bureau, tape à la machine.
Les événements se précipitent. Les Alliés préparent une offensive d'ampleur. Le renfort des Américains est décisif. L'armistice avec la Russie ne va pas suffire. L'Allemagne vient d'essuyer sa pire défaite. Le pays est affaibli de l'intérieur. Des grèves explosent dans toutes les villes. Le peuple réclame que l'empereur abdique.
Il nous faut la lettre. Le peuple a besoin de la voix de Spartacus. La revue est bientôt sous presse, les camarades l'attendent.
Elle n'aurait pas dû miser sur le sergent Gertel.
Elle n'avait pas le choix. Le sac noir est constamment fouillé et le temps presse.
Elle veut le rallier à la cause révolutionnaire.
Elle peut y arriver.
C'est un fils à papa. Un enfant gâté. Au milieu de la trentaine, il n'a presque jamais travaillé. Le père est dans le bâtiment industriel. La mère excelle dans les fanfreluches. Et fait salon de musique avec sa fille. Gertel a été pistonné pour rester à l'arrière. C'est un planqué, inapte au service militaire, comme à tout le reste. Il n'a pas grand-chose à faire, sinon promener une révolutionnaire et lui conter Fleurette. Elle n'aurait pas dû tomber dans le panneau.
Gertel a une âme d'enfant.
Une femme de sa trempe ne devrait pas s'amouracher d'homme qui tète encore le sein.
L'inverse ne t'a pas dérangé. As-tu oublié les anges du péché ?
Ce n'est pas le sujet.
Rosa est ton personnage. Tu dois connaître la femme autant que la révolutionnaire. L'une ne va pas sans l'autre. La passion est la même. La solitude est la même. Elle s'effondrera sans chaleur humaine.
Elle a assez de passion pour faire flamber la forêt noire. C'est ce qui va la perdre.
C'est ce qui la sauvera.
Tu les as vues se promener ? Elle boiteuse et fripée, quasi naine, la cinquantaine bientôt sonnée, et lui qui piaille et bourriffé, tout débraillé dans son uniforme allemand. On dirait une attraction foraine.
Une jolie paire.
Tu lis trop de romans d'amour. L'eau de rose est un poison.
Et toi, avec ton expérience, ta célébrité, tu n'as donc pas davantage d'imagination ? La saucisse commence là où le cochon s'arrête, et puis c'est tout.
Prends garde, petite. Tu as de jolies miches, et je jouerai bien au papa avec toi. Mais reste à ta place. Ton rôle est celui de cheville ouvrière. Je peux le réduire encore. L'impertinence se paie.
Je connais mon rôle.
Je te le rappelle. Tu es la secrétaire de Rosa Luxembourg. Tu sors clandestinement ses lettres, adressées aux prolétaires, et tu assures leur publication. Elle en a donné une à son satané gardien, devenu son amant, et tu dois la récupérer. C'est clair ?
Tu perds la boule, ta mémoire crève. Tu oublies que mon rôle est double. Je suis aussi ta secrétaire. Je tape à la machine ta pièce sur Rosa et la Révolution.
Tu as raison. Parlons de choses sérieuses. As-tu tapé les notes d'hier ?
Les voici.
Lis-moi la dernière page écrite, que j'entends d'où nous en sommes avec l'affaire de la lettre clandestine.
C'est le cœur qui prend la parole.
Vas-y.
Lettre, petite lettre, en quelle main seras-tu ? Quel coupe-papier fera le sanglant sacrifice ? Qui lira les mots et condamnera la pacifiste ? Car le moment approche où la boiteuse sera perdue. Lettre, petite lettre, mais que racontes-tu ? L'hier, pas exemplaire de la tragédie russe, ou le demain qui espère la révolte de Spartacus ? Une chose est sûre, la boiteuse demain sera perdue. Lettre, petite lettre, quelle vérité dis-tu ? Le parti socialiste allemand a voté la guerre. Il ne fait plus des prolétaires que la misère. La boiteuse l'écrit. Voilà pourquoi elle est perdue. Lettre. Petite lettre. Mais qu'espères-tu? Des fleurs pour les révolutions qui viennent? Des fleurs pour que l'espoir des peuples tienne? Des fleurs pour la boiteuse qui est déjà perdue?
Qu'en penses-tu?
Bof.
Comment ça, bof?
C'est déjà vu.
Déjà vu?
La révolutionnaire qui meurt, le sacrifice, des fleurs par-dessus, on a déjà vu ça.
Ce sont les faits.
On peut les changer.
Pourquoi faire?
Sauver Rosa. Vaincre l'injustice. Faire la révolution par l'imagination.
La tragédie est écrite.
Il faut la réécrire autrement.
Ne joue pas avec le feu. Il y a le réel, il y a la scène, c'est la loi de l'univers.
Si tu ne m'aides pas à changer la configuration des planètes, je fais grève.
Le sergent Gertel est un hasard dans le destin de Rosa Luxembourg, un imprévu dans la révolte de Spartacus. Il n'a aucun rôle à y jouer.
Tu peux lui en écrire un.
Je ne suis pas un magicien qui jongle avec les planètes.
Il faut faire table rase.
Les Orientaux donnaient à la Terre le nom de Tébel, d'où nous vient celui de table, car ils pensaient que la Terre était une surface plate, terminée par un abîme d'eau. À présent que la Terre est ronde, il n'y a plus de tabula rasa.
D'autres mondes sont possibles.
Le cours de l'histoire est inéluctable.
L'imagination est un trou noir. Tout peut en surgir et y disparaître.
Il est vrai qu'actuellement, la science forme sur les choses célestes des spéculations qui dépassent la raison.
Continue.
Une hypothèse astronomique récente postule même l'existence d'autres planètes.
Lesquelles?
Ce seraient des dédoublements de la Terre, dans d'autres systèmes solaires, où chaque vie serait jouée en parallèle, l'éternité par les astres.
Tu veux dire des sosies, des doubles à l'infini?
L'hypothèse paraît extraordinaire, mais l'homme ne doit-il pas toujours faire quelque chose avec l'infini?
Et parfois, un hasard, une bifurcation?
Une vie peut ainsi prendre logiquement une autre direction.
Imagine un peu le coup de théâtre. Rosa sauvée sur une autre planète et la révolution portée à la dimension de l'univers.
Si on y arrive, ce sera un miracle, effectivement.
Essayons.
Changer l'histoire par l'imagination, le défi n'est pas facile à relever.
Plus un instant à perdre. Que la révolution des hommes devienne la révolution des astres.
Et que la tragédie devienne une comédie.